Vous êtes bien calé sur le 88.8 et vous écoutez Radio Belle de Mai.
Bonjour à tous, il est midi sur Radio Belle de Mai et nous sommes à la fraternité de la Belle de Mai, grande table installée, beaucoup de monde autour de nous. Et à midi, midi c'est l'heure du repas, donc nous on va s'interroger, de savoir qu'est-ce qu'on mange à la Belle de Mai, ou plutôt qu'est-ce qu'on cultive à la Belle de Mai, comment on le cultive, et puis comment on partage ce qu'on a cultivé. Voilà, une heure ensemble pour discuter. Et alors on est à la fraternité, Serge Pissot, qui est membre du comité d'intérêt de quartier, disait la place CAFO, c'est un peu le centre social de la Belle de Mai, la maison pour tous. C'est aussi le centre social de la Belle de Mai. Eh bien, la fraternité, c'est aussi un peu le centre social de la Belle de Mai. Ce qui fait que ce quartier de la Belle de Mai a 3 centres sociaux. Et je voudrais tout de suite donner la parole à Eugénie. Bonjour, Eugénie.
Bonjour.
Je vous donne la parole parce qu'on est là, à la fraternité. Vous nous accueillez. Peut-être quelques mots sur la fraternité. Qu'est-ce que c'est que cet espace ?
Eh bien, moi, ça fait 17 ans bientôt que je suis là. Je donne de mon temps. Je suis rentrée parce que j'avais besoin de soutien, disons. Je suis restée 3 ans en cuisine. 3 ans en cuisine et depuis, je suis à l'accueil. J'accueille les personnes qui se présentent.
Parce qu'il faut dire qu'à la fraternité, ici, il y a des repas. Hein. Il y a des repas tous les mardis et les jeudis midi.
Jeudi, oui.
Des repas à 2 euros.
2 euros, oui.
Et des repas faits maison.
Faits maison, cuisinés ici. Oui.
Et à partir de légumes cultivés au Jardin des Gibraltars.
Au Jardin d'Éden. Le jardin, je l'ai tenu pendant 6 ans. Les récoltes descendaient à la frappe. Bien sûr, on en a ajouté. Mais autrement, après, avec l'âge, tout ça, je suis plus montée. Mais le jardin est toujours.
Il y a combien de personnes qui viennent ici manger le mardi et le jeudi
Entre le mardi et le jeudi, on table sur le... Moi, j'écris sur mon cahier 36 personnes. Enfin, on monte jusqu'à 36. On peut dépasser si on a des repas en plus. Mais s'il y en a moins, eh bien, ça fera un peu plus pour les autres. Hein. C'est tout.
36 personnes, c'est beaucoup. Vous êtes combien à la cuisine pour préparer
repas ? Maintenant, il y a un cuisinier et il y a 3 bénévoles qui l'aident.
Voilà. Autour de nous, d'autres personnes, parce qu'à la Belle de Mai, il y a aussi des AMAP. Alors on va en parler, il y a 2 AMAP à la Belle de Mai. Il y a l'AMAP de la Belle de Mai qui s'intitule AMAP de la Belle de Mai. C'est Sylvie et Pascal qui sont avec nous. Bonjour Sylvie, bonjour Pascal.
Bonjour.
Cette AMAP de la Belle de Mai, les rendez-vous sont donnés au banc public, c'est cela ?
Voilà, au théâtre, c'est un, bon, ils appellent ça un lieu d'expérimentation culturelle de la Belle de Mai, oui. Alors c'est 3 rue Bonhomme, mais nous la distribution se fait sur le boulevard Ricard.
Voilà. Et c'est combien de paniers dans cette AMAP ?
Alors, c'est variable. L'été, beaucoup plus. Nous avions 35 paniers. Là, l'hiver, un peu moins, parce que les gens n'aiment pas trop le chou, les potirons. Bon, c'est un peu plus difficile. Voilà.
Et à la Belle de Mai, il y a une autre AMAP, l'AMAP qui s'intitule Chayotte et basilic, c'est cela, Hélène ?
Oui, tout à fait. Donc, notre distribution, c'est le mardi. Hein, c'est le même jour que les bancs publics. Enfin, je dis pour simplifier, hein, les bancs publics. Et c'est un peu plus de 30 paniers. Et la distribution, c'est à côté des grandes tables, à la friche, la Belle de Mai.
Et c'est quel jour ? Le lundi, c'est
ça ? Non, le mardi.
Le mardi.
Le mardi. Le mardi. Et c'est Anthony Le Névez, hein, notre producteur, notre maraîcher, qui se trouve à Pélissane. Ah, mais il me semble que tu l'as interviewé, donc on va l'entendre.
On l'écoutera tout à l'heure. Et à la friche Belle de Mai, il y a aussi un jardin potager qui s'intitule le Jardin des Rails. Bonjour David.
Bonjour.
Alors ce Jardin des Rails, tu peux nous en dire quelques mots ? Qu'est-ce que c'est que ce Jardin des Rails ?
Alors le Jardin des Rails, c'est une sorte de fil tendu entre les 2 entrées de la friche qui vise à relier ces 2 entrées et s'accrocher à plein de formes de jardins différents. Autour desquels donc on va retrouver des approches potagères mais aussi ornementales, pédagogiques, ludiques, et donc on a notamment donc le jardin partagé dans lequel les habitants du quartier cultivent des légumes qui finissent dans leur cuisine
Et puis, il y a peu de temps, nous étions avec Radio Belle de Mai à l'Embobineuse, où nous avions fait une émission suivie d'un concert. Et Mathieu de l'Embobineuse est avec nous parce que à l'Embobineuse, il y a un soin particulier quant au catering, je crois.
Ouais, le catering, c'est le dîner du soir, en fait. Voilà. Après, effectivement, il y a. Enfin, c'est le concert est aussi important que le dîner avant.
Alors, c'est-à-dire, quand je dis un soin particulier, c'est-à-dire c'est les produits locaux, c'est du
circuit. En fait, on aide un maraîcher de Saint-Maximin à remballer au marché Saint-Pierre tous les jeudis et il nous donne des légumes ou alors on en achète à moins cher. Et après, les repas sont faits à partir de ces légumes-là. Donc, on a des potirons 11 mois sur 12 et des blettes toute l'année. C'est génial. Voilà.
Mathéo est avec nous. Bonjour Mathéo.
Bonjour Emmanuel.
Alors Mathéo, ce petit programme, qu'est-ce qu'on cultive à la Belle de Mai? Comment on le cultive? Comment on le partage? Cela te convient?
C'est parfait.
Alors on peut commencer?
Oui.
Allons-y.
Ça me vient pas.
Non, désolé. La chanson que me chantait ma grand-mère.
J'y vais.
En quelle langue vous voulez?
Moi j'aurais fredonné.
Mais tu vas passer à la télé, vas-y.
1, 2, 1, 2, 3.
Je voudrais faire manger à la cantine avec les copains et les copines. Même si la viande parfois c'est du caoutchouc. Et tant pis, on s'amuse un bon coup.
Radio Belle de Mai.
Je préfère manger à la cantine de la fraternité, Eugénie. Eugénie, qu'est-ce qu'on cultive? Qu'est-ce qu'il y a dans les assiettes en ce moment? Qu'est-ce qui pousse dans les jardins en ce moment?
Pour l'instant, pas grand-chose. Là, ils sont en train de retourner le terrain, disons. Il n'y a pas grand-chose.
Mais sur cette saison, par exemple, qu'est-ce qui pousse au niveau des AMAP, Pascal ou Sylvie?
Mardi, on a vu les premiers poireaux. Depuis quelque temps, on a des courges, des potimarrons. C'est la fin des aubergines, les tomates c'est fini depuis un moment, il reste encore quelques...
Des poivrons,
voilà,
l'ail, l'oignon, les blettes.
Les blettes.
Délicieuses en ce moment.
Hélène, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la map de la...
Oui, oui, des poireaux, des carottes, de belles carottes, des blettes magnifiques, tout vraiment... Une splendeur, hein, un délice.
Alors, si dans les AMAP, vous cultivez dans le but aussi de manger ce que vous cultivez...
Ce n'est pas nous qui cultivons.
Ce n'est pas vous, mais en tout cas, ce sont les agriculteurs qui
notre
cultivent.
Producteur qui
votre
a...
producteur.
Au
jardin de la friche, on ne cultive pas nécessairement pour manger. Donc, est-ce qu'on retrouve les mêmes légumes ou il y a des légumes plus particuliers qui sont cultivés par les jardiniers en ce moment à la friche?
Alors, ce qui est peut-être plus particulier vis-à-vis d'une AMAP, c'est que ce sont tous des jardiniers amateurs qui sont dans une démarche d'expérimentation. Donc, on se trompe d'une semaine ou deux, on rate certains semis. Au contraire, par moment, on va se retrouver, comme certains jardiniers, avec une parcelle envahie par des cucurbitacées parce qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que ça prendrait tant de place. Et donc, on a des courges qu'on ne peut pas récupérer parce qu'elles envahissent les rails de la SNCF. En revanche, il y a beaucoup d'échanges, même si tous ces légumes-là ne sont pas partagés tout le temps autour d'une table, même si on le fait de temps en temps autour de réunions, de pots, pour parler du jardin et ce qu'on y fait. Il y a énormément d'échanges de graines. Et aussi, on travaille en amont et en aval un petit peu de la cuisine, nous, en tant que coordinateur du jardin, dans le sens où on récupère aussi les épluchures des cuisines des grandes tables, donc le restaurant qui est basé à la friche. Et donc, à partir de toute cette matière, on la transforme en compost, dans lequel il y a énormément de plants qui sortent. Et donc, après, ces fruits-là, on peut les rapporter aux grandes tables en leur disant, vous voyez, tout ça, c'était poubelle. Et puis maintenant, ça sert aux jardiniers. En fait, c'est vous qui faites un peu nos semis qu'on replante dans le jardin. Donc voilà, il y a ce lien aussi autour de la cuisine, de la question de la cuisine. Et les grandes tables sont maintenant nos premiers fournisseurs de graines. Là, c'est en train de prendre. Ils nous rapportent des graines de courge spaghetti, des graines qui viennent des producteurs de la MAP, dont parlait Hélène tout à l'heure. Donc c'est assez rigolo parce que tout ça est très lié.
Eugénie, vous disiez le terrain est en train d'être retourné. C'est quoi la superficie de ce terrain?
En tout, il y en avait 1500 mètres, je pense. Il y a un jardin cultivé, mais qui est grillagé. Il fait dans les 800 mètres, 800 mètres carrés. Et l'autre, on l'a donné à l'artichaut. C'est une association aussi de Chanepanier.
Et vous êtes combien à cultiver, là ? Il y a combien de personnes de la fraternité qui cultivent cet espace ?
Il n'y en a pas beaucoup. Ça, je reconnais que les gens... On me dit la terre est basse.
Ça veut dire quoi, la terre est basse ?
Il faut se baisser. Alors, la terre est basse. À mon âge, maintenant, oui, elle est basse. Mais plutôt, moi, j'allais au jardin, je me lavais la tête, comme on dit. Hein, parce que de toucher la terre, de planter, de faire des semis, puis après de le replanter, de le voir grandir, c'est beaucoup, disons. Mais je crois que ça... Pas tout le monde apprend ça, quoi, disons.
Et quand vous dites que la terre est en train d'être retournée, c'est-à-dire qu'ensuite, vous allez planter...
Autre chose, bien sûr.
Qu'est-ce que vous allez planter ?
Ah ben, toujours pareil, courgettes. On commence par les premiers, je crois, qu'il faut commencer à partir des petits pois, des trucs comme ça. Moi, maintenant, je ne m'en occupe plus, hein. Mais il y a une responsable du jardin et on prend beaucoup de personnes qui ont le RSA, qui veulent avoir des contrats, qui vont au jardin. Mais ils y vont un jour, deux jours. Puis une fois qu'ils ont le papier, ils n'y vont plus.
Et là, en ce moment, bon, on est à l'intérieur de la fraternité, mais il y a un beau soleil dehors. Et pourtant, nous sommes au mois de novembre. On pourrait s'attendre à ce qu'il fasse plus froid, que ce soit moins ensoleillé. Ouais. Est-ce que cela, ça change ? Quant à ce qui pousse en ce moment, oui ?
Mais c'est déjà poussé. C'était les tomates, elles mûrissent plus, elles n'y sont plus.
David, ça change. Et vous avez constaté, non, par rapport à ces changements climatiques, des légumes qui se mettent à pousser au moment où il ne faudrait pas qu'ils poussent ?
Alors, nous, on a eu beaucoup de surprises à ce niveau-là, et d'un point de vue général, vis-à-vis du fait qu'on jardine en milieu urbain. Donc le climat n'est pas le même, les coups de froid arrivent peut-être moins vite ou de manière un petit peu moins violente parce qu'on est protégé du vent par le bâti. Il y a aussi la question de l'éclairage en milieu urbain et de la nuit. Nous, on est sous des spots SNCF, donc on a eu des légumes qui poussaient aux lampes à sodium. Alors moi, cette année, là, ça s'est un peu calmé, mais l'année dernière...
Vous les dopez, quoi.
Donc le potager a été dopé, c'était super, parce que c'était l'année de lancement, le moment où la terre se mettait en place. Donc on a vraiment un climat particulier. Et là, cette année particulièrement, effectivement, moi, ça fait... Il y a deux semaines, on a encore récolté les dernières tomates qui étaient super belles et on n'y croyait pas.
Sylvie et Pascal, vous disiez vous
oui,
aussi.
Oui, nous, c'est dans des légumes qui viennent d'Auriol, hein, qui normalement, il fait beaucoup plus frais qu'ici. Et c'est la première année où nous avons aussi tardivement des aubergines, les poivrons et les tomates. Encore il y a 15 jours, nous avions des tomates. C'est vraiment la toute première année où ça se déroule ainsi.
Hélène, là aussi, de votre côté, des choses...
Pas de tomates, hein. Il est à Pélissane, c'est un petit peu plus haut, c'est à côté de Salon, hein, donc c'est plus difficile. Là, nous, on est installés dans les légumes d'automne. Mais on a des fois, hein, je tiens à le souligner, des légumes particuliers, des mafanes. Alors, c'est un petit peu spécial. Hein,
qu'est-ce que c'est, on peut le décrire ?
Anthony, il est spécial.
Qu'est-ce que c'est comme mafane ?
C'est une herbe. Enfin, c'est une feuille, plus exactement. Et c'est assez astringent. Et ça se mange avec du zébu. C'est une recette malgache. Parce que sa femme est originaire de Madagascar. Donc, on a comme ça, de temps en temps. Bah, chayotte, hein, c'est un légume qu'on trouve à La Réunion, en Madagascar, et puis aussi aux Antilles. Donc, on a des fois des légumes comme ça.
Ah, c'est parfait. Parce que justement, on se posait la question. Le quartier de la Belle de Mai est un quartier traversé par beaucoup d'immigration. L'immigration italienne, aujourd'hui beaucoup de Comoriens. Est-ce que ça change quelque chose quant à ce qui est cultivé, du coup, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des légumes cultivés aux Comores qui se retrouvent à être cultivés ici ? Est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce que, Mathéo disait, est-ce que la terre peut être accueillante à tout type de légumes ? Alors, est-ce qu'il y a des expérimentations pour faire pousser des légumes venus d'ailleurs ? David, peut-être
oh bah, au Jardin des Rails, oui. On a un exemple, on a aussi une parcelle qui est gérée par des personnes qui viennent de La Réunion. Donc là, on a eu tout un tas de graines, on a eu des chayottes qui ont disparu d'ailleurs, un peu trop près de la clôture. Il y a des gens qui ont voulu goûter aussi, parce que ça se trouve quand même moins facilement que les autres légumes qui sont dans le jardin. Tout un tas de piments pour faire le curry, notamment. Et surtout une forme de jardin complètement différente des autres structures.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, les jardiniers, on leur met à disposition un lopin de terre qui est assez contenu, et après, ils investissent le lieu de la manière dont ils le souhaitent. Donc, il y en a certains qui vont prendre un sachet de graines parce qu'ils n'ont jamais fait de jardin, ils jettent ça, ils voient comment ça part. Et puis après, ils composent avec ça. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont un oncle, un compagnon, un grand-père qui était agriculteur, qui leur a dit comment il fallait faire. Donc ils vont bien faire des planches de plantation, bien rectilignes. Il y en a d'autres qui, tout de suite, prennent de la hauteur parce qu'ils disent « Non, ici, ça va être trop petit. » Donc ils font des petits pilotis pour accrocher leurs légumes, faire des HLM à fraisier et des structures bambou pour curcubitacées. Et donc tout ça, ce qu'on va y planter, les influences agricoles qui viennent de plein de pays différents, se retrouvent comme ça, comme petit échantillon, en formant un patchwork de jardins qui prennent des formes surprenantes.
C'est qu'en fait, il y a tout un art du jardin. On parle là de qu'est-ce qu'on cultive, mais on pourrait commencer un peu à dire aussi comment on le cultive. Mais Eugénie, par exemple, vous nous disiez la terre est basse. Donc aujourd'hui, effectivement, vous y allez sans doute moins à ce jardin, mais vous avez longtemps cultivé. Cela ne vous manque pas, ce rapport comme ça à la terre ?
Oui, ça manque. Mais disons que j'ai pris autre chose. J'ai quelque chose qui m'occupe aussi. Mais j'ai passé le relais, voilà, c'est tout. Alors on demande un peu comment on va le jardin. Mais c'est toujours pareil, c'est la personne qui s'en occupe, c'est elle qui cultive, c'est elle qui plante. Et tout dépend. Donc nous, on n'a pas de monde qui est, comment dire, qui est trop... C'est plutôt des amateurs, disons. C'est plutôt des amateurs. Parce que des chayottes, comme on disait, on en a planté aussi, on en avait... Mais c'est que la personne qui est là maintenant, qui s'en occupe, pratiquement c'est elle qui dit « Ah ben moi je plante des tomates, je ne plante pas des carottes. »
C'est le jardinier.
Voilà.
C'est le jardinier qui décide.
C'est le jardinier.
Mathéo.
Et pour les amapiennes qui sont ici présentes, est-ce que vous avez l'occasion, l'opportunité de mettre les mains dans la terre, vous-même ?
Non, ça n'entre pas vraiment dans le principe des amap.
À nous, on l'a fait, par contre.
Et malheureusement, bon, par contre, on va visiter l'exploitation une fois par an. On fait un grand pique-nique avec l'agriculteur. Et puisque les gens aiment beaucoup, c'est le partage avec notre producteur. Tous les mardis, ils discutent avec lui la façon dont il cultive. Voilà, c'est très, très important. Il est toujours présent durant la distribution et lui prend beaucoup de plaisir aussi à partager avec chacun.
Pascal ?
C'est le principe même de la MAP, de rapprocher le consommateur, qu'on appelle aussi consomme-acteur pour le coup, du producteur. Parce que produire c'est bien, mais produire seul dans son champ, avec ses tracteurs, c'est une chose. Et le partager avec les gens qui le consomment, c'en est une autre. Et Jean-Philippe et son équipe sont ravis de ces échanges-là. Et nous-mêmes, en tant que consommateurs, on est aussi partie prenante de ça. C'est-à-dire que sur des légumes qu'on connaît mal ou qu'on connaît bien, mais qu'on a pu particulièrement apprécier ou ne pas apprécier, c'est toujours un moment intéressant de voir avec Jean-Philippe à quel moment ça cloche et ce qui nous satisfait, ce qui nous satisfait moins, les problèmes de conservation qu'on peut avoir, les problèmes de conservation qu'il a lui de son côté, par exemple en ce moment avec les oignons, on en a parlé mardi dernier, il y a un vrai problème qui est lié justement au réchauffement de la température et en ce moment c'est que les oignons ne tiennent pas et donc du coup aurons-nous assez d'oignons pour l'hiver? Ça, c'est une question. Rendez-vous au printemps.
Hélène, alors, toi, tu as des expériences
alors, de cultiver. Les mains dans la terre, pas exactement, mais par contre, on a participé à des chantiers pour remise à niveau des serres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire à plusieurs, parce que ça se passe par étapes. Et puis après, la récompense, c'est quand il reste des fraises, on peut aller grappiller ou glaner. Hein, peut-être que c'est glaner plutôt que grappiller. Hein, je pense que
oui, c'est
le terme. Voilà, un petit clin d'œil comme ça à Agnès Varda.
Et la table s'est agrandie. Hein. Beaucoup de camarades de l'embobineuse, je crois, nous ont rejoints.
Doumé, Seb, qui nous aident assez souvent, qui ont souvent la charge du dîner du soir quand il y a des concerts.
Alors, on posait la question un peu de savoir si les amapiens allaient parfois au contact de la Terre. Et vous, de votre côté, est-ce que parfois vous allez au contact de la Terre? Je ne sais pas qui veut répondre. Sébastien, non, c'est ton prénom, c'est
Doumé.
Doumé.
Je participe donc, oui, effectivement, à l'embobineuse. Je viens juste d'arriver, je suis désolé, je me réveille, désolé. Bonjour à tout le monde. Donc oui, Dominique et Seb qui est de l'autre côté, oui, on participe énormément au repas pour les artistes sur l'embobineuse. Donc je suis pris la discussion en cours, là j'ai entendu parler de légumes, de MAP, ben, ça me touche énormément parce que nous on a les mains dans la gamelle. Donc,
vivement. Est-ce que vous avez les mains dans la terre aussi parfois?
J'ai pas beaucoup le temps, je suis désolé. Malheureusement ça me manque parce que je suis un fils de paysan, donc c'est... un retour aux sources quelque part, même si c'est verbal, mais au moins dans ma tête, j'y suis. Je retourne avec mon papa dans la terre, avec la bêche. Mais ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui justement travaillent comme ça, parce que c'est très important pour la gamelle, j'y reviens. Très important, surtout qu'on est vraiment dans une malbouffe, quoi. Et il y en a marre.
J'en profite pour dire que je me souviens, au tout début, je fais partie hein, de ceux qui ont créé la MAP à l'origine, et je me souviens qu'il y avait quelqu'un de l'embobineuse. Non, c'était Félix.
Oui, ce lien comme ça de la nourriture là, auquel vous prenez soin à l'embobineuse, c'est depuis le début.
Oui, c'est un truc qui est partie intégrante. Enfin, le concert. Enfin, moi, je suis pas à l'embobineuse depuis super longtemps, mais depuis le début que j'organise des concerts, en tout cas, le repas est aussi important que le concert. Et il est basé sur le même. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est un peu fourre-tout, mais c'est un moment d'échange en fait. Là, les groupes arrivent à Lambeau, il y a des gens qui sont en train de cuisiner, ça sent bon. Enfin, ils voient la chose secrète, quoi. Il est hors de question de servir des pizzas ou de la junk food, comme on dit. Et ça se ressent, en fait, parce que les groupes mangent bien, donc ils sont contents. Bon, passer la phase de digestion, où il faut les garder réveillés. Mais après, du coup, ça se ressent sur scène aussi, quoi, dans ce qu'ils vont donner. Et je pense qu'après, le public le sent aussi, voilà, quoi. Et cercle vertueux, comme on dit.
Eugénie, on dit effectivement, aller au jardin, c'est travailler, mais c'est peut-être pas aussi que travailler. Parfois, c'est sans doute aussi s'y reposer.
Ah oui, bien sûr. Ah oui. À 10h, mais on a le café. On arrête tout le monde et on prend le café. On s'arrête à 11h30, midi. Il y a le repas, s'il ne fait pas trop froid, parce que nous, on a. On
bien
est
proche
au plateau
micro.
En haut et on n'a pas chaud. Hein. Il y a le vent, et on a le soleil, mais...
Là, ça reste encore un temps agréable pour être au jardin.
Voilà, oui. Oui, mais c'est toujours pareil. Il fait froid. On n'a rien qui arrête le vent, ni le... Voilà.
Il y a des constructions dans le jardin, des
non,
petites cabanes.
C'est que des jardins. C'est que des jardins. C'est des jardins familiaux.
Mathéo.
Oui, je voulais poser une question aux gameliers. On peut dire ça, les gameliers de l'embobineuse?
Voire cambusiers.
Cambusiers. Est-ce que vous préparez les gamelles en fonction parfois des thématiques des soirées?
Il y a plus des figures imposées par rapport au régime alimentaire des groupes. Enfin, je ne parle pas de trier les M&M's par couleur, mais il y a des gens qui ont des allergies. On a vu un groupe, par exemple, où le chanteur avait une maladie héréditaire au niveau de l'intestin. Du coup, il y avait une liste longue comme le bras de ce qu'il pouvait pas manger. Et au final, il n'est pas rentré dans la cuisine parce qu'il avait peur de traverser le musée des horreurs. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment... En tout cas, pour Doumé, c'est pas mal de figures imposées par rapport à ce qu'on récupère et par rapport à s'il y a des allergies. Enfin, généralement, c'est allergique aux produits laitiers. On a des gens véganes, on a des gens allergiques au gluten. Enfin, voilà. On fait attention à ça, en fait.
Ça serait quoi une illustration d'une des figures imposées, Doumé? C'est quoi un plat, la spécialité maison?
La spécialité maison, en fait, bien Mathieu qui vient de lâcher le micro, là, qui me l'a passé, c'est notre glaneur de marché qui va chercher les légumes au pied chez le producteur, et après on met tout sur la table et c'est une cuisine d'inspiration. mais où c'est super agréable, c'est qu'on a vraiment des vrais légumes, où les gens de plus en plus se rapatrient sur le légume, parce qu'il y a une grosse psychose sur la viande, chose tout à fait normale, à moins d'être vraiment au pied du consommateur, mais bon, c'est vraiment le légume qui domine notre cuisine. Avec des légumes d'antan, j'ai entendu, je crois, parler de topinambour, de choses comme ça, les vieilles racines qui reviennent énormément, c'est très tendance, parce que les gens ont peur de la viande et se rapatrient sur les légumes, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on peut aussi bien manger qu'avec un repas végétarien, s'il est bien accommodé, bien travaillé, tout le fait. On a plein de choses, il y a des sauces soja, il y a plein de choses, il faut travailler le produit de toute manière. On peut pas non plus faire de la chimie, cuisine chimie, mais laisser un produit authentique dans l'assiette, c'est quand même pas mal non plus. Savoir ce que c'est qu'une côte de blette, un topinambour, une carotte noire, toutes ces choses-là qui sont très tendances maintenant, dues à la psychose de la viande.
J'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux, la bouffée des yeux, mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir, je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Miam, miam.
En direct sur le 88.8 Radio Belle de Mai, en direct de la Fraternité, ce lieu à la Belle de Mai, ce lieu où on peut y manger tous les mardis midi et tous les jeudis midi, hein, des repas cultivés, des repas à partir de légumes cultivés au Jardin de Gibraltar, des repas à 2 euros fait maison, n'est-ce pas, Eugénie? Et nous sommes à une grande table où il y a beaucoup de monde et nous parlons donc de qu'est-ce qu'on cultive à la Belle de Mai et puis comment on le cultive. Et puis comme il y a des AMAP autour de nous, dans le comment on cultive, c'est un rapport, disons, simple à la nature, c'est-à-dire un rapport biologique, on va dire, hein, c'est du bio, mais c'est aussi prise dans une solidarité avec ceux qui produisent. Donc le principe des AMAP, peut-être qu'on peut revenir un peu, même si les gens commencent à bien savoir ce que c'est qu'une AMAP, mais on peut quand même redire à nouveau, hein, comment cela fonctionne, cette solidarité avec l'agriculteur. Sylvie, peut-être?
Oui. Parce qu'il y a vraiment une solidarité, parce que chaque AMAPien a un contrat d'engagement vis-à-vis du producteur et réciproquement. C'est-à-dire que l'AMAPien s'engage, lui, à venir toutes les semaines récupérer ses légumes et tout autre produit, puisque, par exemple, dans l'AMAP aussi, nous avons des œufs bio, des fromages bio, des fruits bio, du miel, des volailles et de l'agneau. Et donc, l'AMAPien s'engage à venir récupérer ses produits toutes les semaines, à payer un mois à l'avance la production. Comme ça, le producteur sait où il va. Et le producteur, lui, s'engage tous les mois à apporter la bonne quantité de produits et à avoir des produits sains dans
les paniers.
Oui. Voilà.
Disons, l'engagement, c'est le plus simple possible. Donc, ce n'est pas toujours bio, mais c'est toujours le plus simple possible.
Alors, justement, peut-être qu'on peut s'arrêter un instant sur ce mot bio, parce que maintenant, on va dans les magasins, une fois, il y a l'étiquette bio. Bon, c'est compliqué, bio. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans les AMAP, il y a, j'imagine, différents niveaux de bio, oui, aussi. Finalement, David, quand il disait il y a la lumière des préfabriqués qui, d'une certaine manière, viennent doper la plante. Voilà, est-ce que ça aussi, c'est du bio? Comment on pourrait qualifier bio? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire qui serait simplement aussi d'un rapport à l'environnement immédiat? Je sais pas, David, comment tu qualifierais une culture bio?
Je crois qu'aujourd'hui, le terme bio... Nous, quand on a lancé le jardin, on a écrit une charte de bonne conduite, de bonne pratique vis-à-vis du lieu et des cultures qui allaient être mises en place. Et donc, dedans, on imposait aux jardiniers le fait de ne pas utiliser d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Et en fait, on s'est rendu compte... ça les a fait rigoler. Les jardiniers nous ont dit vous rigolez ou quoi ? C'est complètement évident. Si on fait un jardin et qu'on se donne du mal et qu'on prend plaisir pour avoir nos légumes à nous et faire nos semis, etc., c'est pas pour avoir les mêmes que ceux qu'on a dans les grands supermarchés. Et du coup, en fin de compte, cette idée du bio, elle est complètement, comment dire, en tout cas de la culture la plus raisonnable possible, elle est acquise. En revanche, je ne sais pas ce que ça veut dire que de faire un jardin bio au milieu d'un quartier qui est extrêmement dense, à côté d'une voie ferrée, à côté d'une rocade qui émet des métaux lourds, sur un sol qui est le sol d'une ancienne manufacture dans le cas de ce jardin. Donc nous, ça, c'est des choses, en tant que concepteurs de jardin, qu'on a prises en compte au début et dont on a fait des analyses de sol et on a essayé de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans ce cadre bio. En revanche, je crois que ça c'est acquis et qu'on peut aller beaucoup plus loin maintenant vers ce que disait Doumé tout à l'heure et ces vieilles semences, ces échanges de graines qui viennent, qui sont plus adaptés ou plus farfelus ou plus originales. Et je trouve que ça porte beaucoup plus de poésie et d'élan pour les jardiniers que d'aller dans ce sens-là, que de chercher à tout prix. La semence, moi les jardiniers, je leur dis, il vous reste une semaine pour planter tel légume, c'est pas grave, au pire, trouve une semence Villemorin à Carrefour parce qu'il y en a et que c'est plus facile dans le quartier, c'est voilà, pour trouver des graines. En revanche, après, dans la manière dont tu vas le cultiver ce que tu vas commencer à toucher du doigt cette pratique, cette semence-là, l'année prochaine, demande à ton voisin parce que lui, il a des super graines. Et voilà, enfin. On essaye d'aller plus loin parce que le bio, j'ai l'impression que ça veut tout et rien dire. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment du bio.
Sylvie ?
Et puis ce qui est important aussi, c'est que ce soit une production locale. Parce que quand on voit du bio qui vient d'Argentine, Italie, Afrique du Sud, finalement, ça veut rien dire. Parce que le bilan CO2, bon, il est catastrophique. Alors que nous avons des produits qui viennent du Var, des Bouches-du-Rhône. Et c'est ça l'important.
Le circuit court.
Voilà, circuit court et le rapport avec le producteur. Voilà, la proximité.
Ce que tu as dit par rapport au sol, les métaux lourds, du coup, je m'interroge aussi de... est-ce qu'on peut imaginer de l'agriculture en ville ? Alors qu'elle est un petit peu plus loin que le jardin, elle est peut-être le pas au-dessus. Est-ce que de l'agriculture en ville, c'est quelque chose d'imaginable ?
Alors, c'est un grand sujet. On parle tout le temps d'agriculture urbaine. Moi, j'ai l'impression que les personnes qui viennent jardiner dans ces jardins, dans le jardin des rails, mais aussi dans les jardins du quartier, ne sont pas des agriculteurs. Et ils viennent en amateur, en explorateur d'une nouvelle forme de s'approprier l'espace. Que ce soit des friches où il y a déjà du sol, que ce soit aussi des trottoirs, des balcons dans lesquels il faut en constituer. Et du coup, je crois que, comment dire, la démarche pour moi n'est pas celle du tout d'une production abondante et d'une logique d'une personne, d'un agriculteur dont c'est le travail. Il doit répondre vraiment d'un besoin. Là, on est dans une approche qui est expérimentale. En tout cas, nous, c'est ce vers quoi on essaye d'accompagner les jardiniers. Et du coup, dans ces expériences-là, il n'y a pas que le légume et la production du légume. Il y a aussi la manière dont, par exemple, on va constituer ce sol ou l'amender. Nous, sur le jardin, je parlais tout à l'heure de la relation avec le restaurant, ça nous paraît incohérent de... booster, amender un sol, même si c'est avec, par exemple, du compost ou de l'engrais biologique. Mais si cet engrais il vient de l'autre bout de la France ou de la planète, ça nous paraît avoir peu de sens vis-à-vis de la démarche qu'on essaye de mettre en place avec des acteurs locaux, des habitants qui habitent juste à côté. Et donc, du coup, le fait de travailler, de constituer, par exemple, un compost qui vient de la friche, on est à 50 mètres, les légumes du resto... les feuilles de platane ou le broyat des branches d'élagage qui viennent du site. Et donc tout ça, c'est aussi éviter un maximum les échanges avec l'extérieur. Le crottin vient de Longchamp, le compost vient des grandes tables. Les graines viennent aussi des échanges avec les autres jardiniers des autres jardins du quartier. Donc voilà, c'est ces circuits courts qui me semblent plus importants que se poser des cadres agricoles ou d'agriculture urbaine. Après, il y a plein de possibilités et l'agriculture urbaine, c'est peut-être possible parce qu'il y a encore les cinquièmes façades des immeubles, il y a encore les toits, il y a énormément d'espaces à exploiter. Mais c'est une autre démarche et je crois qu'il faut d'abord que ça germe, que ça amène de l'appropriation du paysage et de la poésie dans l'esprit des gens pour que tout ça puisse se développer de manière viable économiquement.
Ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est qu'il faut penser le circuit court en fait à l'échelle d'un écosystème qui est l'écosystème immédiat. Donc c'est le circuit court au sens de cet écosystème, c'est-à-dire effectivement sur le compost, sur où on trouve les graines, voilà. Quand même, par rapport à la question de l'agriculture en ville, il y a aussi des questions de nécessité. C'est-à-dire que, je reviens avec Eugénie, les repas sont à 2 euros. S'ils sont à 2 euros, c'est aussi parce que vous pouvez les cultiver vous-même, ces légumes.
Pas toujours, non, pas toujours. Le cuisinier va au marché acheter ses légumes. Il fait ses commissions. Et on a le mercredi, il y a des enfants. Donc, dans un centre aéré, il y a quand même pratiquement 40 gamins. Alors automatiquement même, j'entends parler de panier. Hein. Mais ce n'est pas possible, la frat, qui puisse aller dans des endroits comme ça, parce que ça revient trop cher. Vous savez, quand on offre... Enfin, on offre, non. On donne un repas, l'heure d'œuvre. Donc, c'est toujours des salades, hein, accompagnées d'autres choses. Et puis, un repas avec, mettons, riz, pâte, viande, poisson. Et il y a le dessert. D'un gâteau ou un flan ou un dessert et un café, on ne s'en sort pas. Pas possible. Et le directeur ne veut pas augmenter. Il a dit qu'il y a des personnes qui ont même du mal à payer 2 euros. Alors c'est bien beau les légumes bio. Déjà c'est un peu plus cher. Et puis nous, on n'a pas de relation avec des agriculteurs, on n'a rien ici.
Donc là, est-ce que la solution serait que vous puissiez cultiver davantage?
Mais il faut avoir du monde aussi. Voilà. Et je vous dis, nous, on travaille qu'avec le RSA. Ce sont des assistantes sociales qui nous envoient des personnes. Et ces personnes-là, elles se disent, je ne suis pas payée. Parce que moi, on m'a fait ce geste-là. Je monte au jardin, mais... Ah, je dis non, il n'y a rien.
C'est le geste de l'argent. Hein.
Le geste de l'argent, je dis non, c'est du bénévolat. Ah, et ça, ils ne veulent pas. Alors, ils viennent une fois, deux fois, puis après, vous ne les voyez plus. Et c'est rare qu'il y en a qui restent 6 mois.
J'ai rencontré Anthony, qui est l'agriculteur de l'AMAP, Chayotte et Basilic. Je lui ai demandé un petit peu comment fonctionne son AMAP et je lui ai posé, à la fin, on l'entendra, cette question de savoir s'il pourrait y avoir des paniers solidaires. Justement, on l'écoute.
Une blette, les navets, une salade de chaque.
Alors c'est quoi le menu?
Alors aujourd'hui, dans le panier, il y a 2 oignons, un persil, une botte de persil, un sac de vitelotte, un romanesco, une betterave, une botte de carottes, une botte de poireaux, un potimarron, 3 navets, un romanesco, une botte de blette et 3 salades.
C'est pas mal.
Ah, c'est pas mal, oui. Il a fait chaud, donc les paniers sont chargés. Là. Voilà, ça vaudra pour les périodes qui seront un peu plus délicates, on verra. Mais pour l'instant, tant qu'il y a de la marchandise...
C'est ça le principe des AMAP, tantôt gros panier, tantôt panier plus petit.
Voilà, le principe, c'est une solidarité avec le producteur et aussi une solidarité du producteur avec les AMAPiens. C'est-à-dire, quand j'ai la marchandise, je la mets aussi dans le panier. Tant pis pour eux s'il y en a trop, tant mieux. En ce moment, on a un surplus de blettes, donc ça fait 3 semaines qu'il y a des blettes. Je sens un début de contestation, mais voilà, ça fait partie du jeu et la blette est dans le panier aussi. Quoi.
Et il y a combien d'AMAPiens ici?
On a 26 contrats, mais ça représente peut-être entre une quarantaine de familles en fait, puisqu'il y a des gens qui se partagent les contrats. Et donc on est à une quarantaine de familles. Attends, t'es devant le panneau là et on va.
Pourquoi la Belle de Mai?
Pour moi Parce que c'est mon quartier, c'est, je viens d'ici, moi. Je suis né au Chetavie, j'ai habité à la Belle de Mai, je suis à l'école au boulevard d'Ada, en primaire ici, donc c'est un peu mon quartier. Et c'était un retour aux sources. Enfin, c'est la première raison pourquoi je viens ici. La deuxième raison, c'est qu'ils m'ont, ils sont venus chez moi quand je me suis installé. Et il n'y avait rien. Ben, c'est les Amapiens, ces gens bizarres là, qui voulaient des légumes. Et ils sont venus alors que je créais l'exploitation et on a commencé ensemble, c'est-à-dire. Et ils m'ont signé les chèques, ils m'ont signé les contrats et je suis allé voir le banquier avec les chèques et le contrat et je dis bon maintenant il faudrait me suivre parce que eux ils croient en moi et dans 3 mois il faut que je livre les légumes. Je suis pas né agriculteur, hein, je suis fils de cheminot, c'est pour ça que j'habitais au-dessus du dépôt potrier, hein, voilà. Et j'ai décidé de m'installer dans l'agriculture, j'ai travaillé avant dans l'agriculture, donc dans des agricultures plus industrielles. Et quand j'ai voulu m'installer à mon compte, je me suis rapproché d'une agriculture qui me convenait plus à mon échelle, à mon idéal social, on va dire, et puis à mon idéal aussi de sanitaire. Je suis allé vers le bio, je suis allé sur une agriculture paysanne à petite échelle, et je suis retourné vers une commercialisation en direct. Et ça passait en partie par les AMAP.
C'est quoi la superficie
On a commencé au début, on avait 1 hectare, presque 2 hectares, avec une partie en serre couverte, en tunnel couvert. Maintenant, on est à 5 hectares, on a des poules, on a, voilà, donc en 7 ans, c'est la 8e saison donc, que je fais avec eux, on a grossi en même temps que la MAP a un peu grossi, que des marchés sont arrivés, que de nouveaux salariés sont arrivés, voilà, au fur et à mesure des rencontres, l'exploit s'est développé et c'est adapté un peu aux différentes possibilités qu'il y avait autour de nous.
Tu penses que c'est possible l'agriculture en ville ?
Pourquoi pas ? Je ne sais pas si ça peut être nourricier, mais ça peut être un loisir plus qu'agréable et sain pour les personnes. Quoi.
Ah, ça peut pas être nourricier.
Il faut de la surface quand même pour produire. Hein. J'ai quand même 5 hectares. Bon, on a d'autres AMAP depuis, on a d'autres débouchés, mais il faut quand même de la surface. Et c'est pas un loisir. C'est mon travail. Il y a une grosse différence. Moi, je suis debout depuis 5 heures et j'ai pris une demi-heure de pause aujourd'hui. C'est une très grosse journée pour moi. Voilà, et je vais rentrer chez moi, il sera 8 heures du soir. Donc, c'est pas que un plaisir. Ça, il faut que ça soit un plaisir pour le faire, ce métier-là. Mais il faut être conscient que c'est énormément de travail. Quoi. Bon, après, c'est un choix. Hein. Je dis pas ça en revendiquant des pauvres paysans qui travaillent. Non, c'est mon choix. Moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ce métier. Et voilà. Même ici, quand j'habitais au 3e étage... Je traverse du siphon au-dessus, là, je faisais pousser des patates sur le balcon. Donc voilà, je savais que dès 11 ans, je savais que je finirais là-dedans.
Il faut combien de paniers pour pouvoir vivre ?
Alors, il n'y a pas de réponse miracle à ce genre de questions. En fait, ça dépend de l'exploitant, des besoins. Ça dépend de ses besoins matériels, ça dépend de son investissement. Voilà. Moi, quand j'ai commencé ici, il me fallait 30 paniers minimum. Et c'était et un marché le week-end qui faisait à peu près la même chose, un équivalent 30 paniers. Et ça me permettait de me payer moi normalement et un demi-salarié, on va dire, un salarié sur 6 mois. Maintenant, aujourd'hui, il y avait 4 personnes qui travaillaient chez moi pendant que moi j'étais au marché à Saint-Just. Donc l'exploit est beaucoup plus grosse, on a des besoins différents. 30 paniers, ça ne me suffit pas. On a repris une deuxième AMAP aux Égalades, un deuxième marché. Voilà, donc il n'y a pas une réponse type. Il faut vraiment voir les besoins de la personne, le matériel qu'elle apporte, ses compétences aussi. Quelqu'un qui n'a pas... C'est un métier qu'il faut apprendre chez les gens. Hein. Ça ne s'apprend pas que dans les écoles. Et donc après, tous les paramètres mis bout à bout, on arrive à retirer les besoins qu'a quelqu'un et on peut mettre ça sur des paniers. Mais il y a un coût de transport aussi. Moi, moins de 30 paniers ici, je ne pourrais pas continuer à descendre. Voilà. Mmh. Donc c'est aussi ça qui rentre en compte.
C'est des gens de la Belle de Mai qui viennent ?
C'est pas que des gens de la friche, c'est des gens du coin, ouais, du quartier. Ou des gens qui travaillent ici et qui habitent ailleurs. Alors, mais c'est essentiellement des gens du coin. Ouais. Après, de la Belle de Mai même, on est deux, dont enfin voilà, il doit y avoir 2 personnes de la Belle de Mai qui sont nées ici.
Oui, parce que ce soir, il y a une autre AMAP au banc public.
Ouais, au banc public, oui. Alors je connais pas l'autre producteur, mais lui aussi il est là depuis un moment. Il était là d'ailleurs avant que nous on commence ici. Et son AMAP était pleine quand on a commencé ici, donc il y avait un besoin, c'était une demande. Hein. C'est pour ça que ça fonctionne, l'AMAP, c'est parce que c'est une demande des AMAPiens d'avoir des légumes et de venir avec moi. Quoi.
Et par rapport aux autres quartiers de Marseille, il y a plus d'AMAP à la Belle de Mai ou... Parce que 2 AMAP sur le quartier, c'est pas mal, non
Oui, c'est pas mal, c'est un quartier... Il n'y a pas plus d'AMAP, hein. C'est 2 petites AMAP. Voilà, donc c'est deux groupes qui restent avec leurs producteurs, qui sont aussi, qui ont envie de rester aussi avec leurs producteurs, parce que chacun va défendre son producteur, c'est aussi ça. Et je ne sais pas si c'est viable pour les deux. Moi, je me débrouille à ce que mon AMAP continue à être viable au niveau finance, au niveau des transports, tout ça. On se débrouille à mutualiser des transports pour livrer d'autres personnes en même temps. Et puis après, c'est viable, je sais pas, mais c'est aussi que c'est un quartier qui est dynamique. Hein. C'est un quartier qui était populaire. Et qui, il y a des classes un peu plus aisées qui reviennent et qui sont à la recherche de plus de qualité, peut-être. Voilà. C'est aussi ça qui fait que les AMAP existent. Hein. C'est qu'il y a une certaine classe de personnes qui recherchent plus la qualité et que leur pouvoir d'achat. C'est ce qui est plus important, c'est la qualité de ce qu'ils vont manger.
Tu veux dire qu'aussi économiquement, c'est pas forcément accessible à tout le monde ?
Non, mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Ce soir, le panier, économiquement, je pense qu'il est intéressant parce que le panier que je t'ai annoncé, il est quand même prévu pour être à 14 euros, quoi. J'ai pas calculé combien il y a ce soir, mais on a largement dépassé les 14. Et c'est pas mon critère, je m'arrête pas à ça. La marchandise, je l'ai. On a le temps de la mettre dans le panier, de la ramasser, de la mettre, on va la mettre. Mais il y a quelques années ça, il a fait moins 15 chez moi, on devait re-signer les contrats et ça aurait pu être un problème. J'ai des gens qui m'ont dit non, c'est le principe, on reste avec toi, on a signé avec toi, on continue. Donc il y a un risque économique que certains ne peuvent pas prendre.
Et la solidarité qui existe entre disons le consommateur et le producteur, est-ce qu'on pourrait imaginer une solidarité inter-AMAPien ?
Ah, moi j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais après, l'AMAP reste une association avec des engagements dans une association qui sont difficiles. Voilà, donc moi j'adorerais qu'il y ait un panier solidaire quoi, et auquel je participerais sans qu'on sache qui a ce panier, mais comment, sur quels critères, qui s'en occupe quoi. C'est juste un problème d'une vie, d'une asso, voilà, où il faut qu'il y ait de l'engagement de certaines personnes et on en revient, on tourne toujours autour de la même problématique là, mais c'est pas une problématique qui est propre aux AMAP quoi. Mais oui, moi j'adorerais ça, ouais. Un panier solidaire, ça serait quelque chose qui me paraîtrait logique. Quoi.
Merci Anthony.
De rien, merci à toi.
Un panier solidaire à l'AMAP, Chaillotte et Basilique Hélène, c'est quelque chose d'envisageable ?
Ah ben, ce serait bien, hein. C'est vrai que c'est arrivé pendant l'été quand certains AMAPiens ne viennent pas et nous ne sommes pas prévenus. On se retrouve avec un surplus de légumes, avec des quantités. Alors on essaie de voir si autour de nous, on voit des gens qui auraient besoin. C'est pas toujours évident. C'est arrivé des fois qu'on donne des paniers à des personnes et qui étaient vraiment contentes. On sentait que c'est vrai que c'était bien. Hein, c'était bienvenu. Il y a encore du chemin à faire. Enfin, je veux dire, j'essaie d'être lucide. Hein. Je fais partie des gens qui ont créé la map. Déjà, rien qu'au début, le fait d'avoir des paniers qui étaient des petits paniers, parce que Anthony démarrait l'activité, donc c'était normal. Hein. On a essuyé les plâtres, comme on dit. Et il a fallu expliquer. Il y avait un besoin de pédagogie incroyable pour faire comprendre aux gens que notre engagement, c'était aussi une solidarité par rapport à un agriculteur qui démarrait. Bon, il avait une expérience, hein, mais comme l'expliquait, il démarrait dans son exploitation. Hein. Donc déjà, rien que ça, hein, je veux dire, faire comprendre c'est quoi la logique. On n'est pas des capitalistes, les AMAPiens, qui achetons des actions. Parce que moi, j'étais obligée d'expliquer ça. On n'achète pas des actions sur le terrain d'Anthony et après, on récolte des bénéfices. Hein. C'est plus complexe, hein, la relation qu'on a avec le producteur. Donc déjà, hein, là-dessus, je vois la difficulté des fois à ce que ce soit entendu. Hein, au sens qu'ancien, hein, c'est que compris quoi. Et donc la solidarité, je pense qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup hein, qui seraient prêts à ça, mais il faudrait hein, de nouveau peut-être qu'on le lance. Hein, pourquoi pas profiter de cette émission et puis lancer un pavé dans la mare.
Ou peut-être par exemple un panier pour la fraternité, comme oui, par exemple
tout à fait.
La map pardon de la Belle de Mai, vous avez un panier solidaire.
Nous avons un panier solidaire. Nous en fin de distribution. Bon, nous avons le système du panier d'échange. Donc, ce qui reste dans le panier d'échange et puis des paniers qui restent un peu en perdition parce que les gens n'ont pas pu venir les chercher. Il y a toujours, à cause des embouteillages ou bon, pour diverses raisons, un responsable des Restos du Cœur vient et récupèrent tous ces produits frais, parce qu'au Resto du Cœur, il manque cruellement de produits frais, et sont ravis de les avoir. Et c'est distribué à des habitants du quartier, puisque c'est le centre national, du boulevard national des Restos du Cœur qui les récupère. Et vraiment, ils sont ravis. Ce responsable ne manque jamais un mardi pour avoir ses légumes.
Je ne sais pas, à l'embobineuse, vous n'avez pas de panier ?
Non, mais on a plein de transistors pour écouter la radio. Non, mais les paniers, non. Nous, on est vachement avec Monsieur Descomis, qui nous subventionne indirectement beaucoup plus que la région, le département ou la mairie. Bon, il ne le sait pas trop, mais voilà. Mais non, on n'est qu'avec la récup au marché. Et quand on a vraiment des grosses dates, comme la semaine prochaine où on a 4 dates, on va acheter, on lui achète des choses, quoi.
La récup au marché, c'est-à-dire fin de marché, hein, c'est ça ?
Ouais, on aide à ranger le camion.
Vous aidez à ranger le camion et vous récupérez les légumes.
Ouais, et on rigole aux blagues. C'est ça le concept. Des fois, ouais. Enfin, je ne m'étendrai pas sur le sujet.
Et c'est comme... En fait, c'est glané, d'une certaine manière.
Bah, pas vraiment, parce qu'il y a un échange de services. Enfin, lui, ça lui rend service qu'on vienne l'aider aussi, quoi. Enfin, puis c'est une rencontre. Enfin, ça fait un moment que les gens de Lambeau vont l'aider, ce monsieur. Et pareil, en été, quand on a moins de concerts, eh ben, on redistribue sur aux voisins ou ce genre de choses, quoi.
David, au Jardin des Rails, c'est des potagers, disons, de loisirs. Je sais que vous vous préoccupez pas de la question de l'assiette. Et en même temps, il y a des vraies nécessités. Il faut quand même le rappeler, on est là à la fraternité, on est dans un quartier qui est très pauvre, donc il y a des nécessités de s'alimenter. Est-ce que c'est possible d'imaginer une extension ou un Jardin des Rails qui serait un Jardin des Rails dans une logique de redistribution des légumes à la fraternité ou au Restaurant du Cœur ?
Bah, disons que nous, on est sur une surface qui est extrêmement contenue. Donc chaque groupe de jardiniers qui jardine une parcelle, si déjà il arrive à cultiver tous les légumes dont il rêve et dont il a envie d'aller jusqu'à l'assiette et de goûter sa propre production, c'est déjà énorme, parce que on est sur des petites surfaces. Alors après, la manière dont ces légumes-là peuvent se diffuser dans le quartier, ça passe par les jardiniers eux-mêmes qui s'échangent des choses, qui peut-être en donnent. Ça, moi, je ne suis pas au courant de tout. Et après, ça se fait de manière, on va dire, non maîtrisée. En tout cas, ça nous échappe complètement. Par exemple, avec Halloween, toutes les courges ont disparu une semaine avant. Donc on le sait pour la prochaine fois. Alors voilà, on ne sait pas si elles ont été mangées ou pas. Elles ont peut-être, mais dans tous les cas, il y a eu un gros événement sur la place Cadenas pour Halloween, et si certaines courges se sont retrouvées là et qu'elles ont pu rendre heureux les gamins qui n'avaient pas réussi à en avoir par ailleurs, c'est comme ça en tout cas qu'on essaye de prendre cette question qui peut devenir un problème quand des fois il y a des cultures entières qui disparaissent. On a certains jardiniers qui étaient super contents d'arriver à faire les premiers melons du Jardin des Rails. Ils ont tous disparu l'année dernière, cette année rebelote. Par exemple, les premiers melons que les jardiniers arriveront à faire au Jardin des Rails sans qu'ils disparaissent, je pense que ça leur fera du bien. Alors après, voilà, si ces légumes qui disparaissent servent à des gens qui sont dans le besoin, et je pense que... Ça arrive assez fréquemment que ce soit le cas, parce qu'on a très peu d'actes malveillants et de dégradation, mais des gens qui viennent des fois prendre quelques légumes, ben, les réactions sont assez différentes en fonction des jardiniers, mais d'une certaine manière, c'est la discussion que nous on lance quand la tension monte un petit peu. On se dit, bon, ben, est-ce que d'une certaine manière, t'as pas participé au fait que ben, quelqu'un ait pu manger des légumes locaux C'est un sujet très compliqué qui revient souvent.
David, lorsque nous avons préparé cette émission et que nous t'avons invité, tu as dit « chouette, oui, je viens, car j'ai très envie de rencontrer les gens de la fraternité. Pourquoi ?»
Parce qu'on se rencontre de temps en temps. Alors, c'est pas vous que j'avais rencontré il y a quelque temps, mais il y a plusieurs jardins dans le quartier Et on a tous des approches extrêmement différentes. Et moi, ça m'intéresse en tant que paysagiste de savoir quelle est la matière dont chaque porteur de projet se nourrit pour aller plus loin et dépasser cette question du jardin, du jardinage, pour pas que ce soit qu'un loisir, parce que c'est un peu ce sur quoi on s'arrête tout le temps. Et je pense que tous les gens qui prennent des parcelles, que ce soit à Gibraltar, que ce soit à la Friche, que ce soit à la Busrade, que ce soit, enfin, et dans le reste de la ville et du pays et du monde même, parce que tous ces jardins se développent énormément, c'est pas que pour la question du loisir qui pourrait pour beaucoup, en fait, faire sur leur balcon. Ils viennent partager une expérience et aller plus loin sur plein de questions. Alors moi, en tant que paysagiste, j'aborde les questions, on va dire, d'aménagement, d'espace, du vivre ensemble, dans ce site un peu complexe qu'est la Friche. Mais ça m'intéresse énormément d'entendre des gens qui rentrent par la cuisine. Et pour moi, ça parle de paysage.
Génie.
Vous voulez... Ça serait bien, ça, parce que justement, il nous manque ça, je pense, à la Friche. Il manque... Il y a le bon vouloir, mais il manque la... votre connaissance, disons.
Je pense qu'on a... Enfin, c'est des approches qui sont...
Voilà, la personne qui se trouve maintenant aimerait bien être conseillée. Parce qu'on a... Elle le fait, mais des fois, il manque des petits conseils ou de dire, tiens, on fait comme ça, pas comme ça.
Alors, les conseils... Enfin... Si je comprends bien ce que vous dites, c'est des conseils qui sont peut-être liés à la pratique même du jardinage.
À la pratique du jardin, paysagiste.
Alors moi, je suis très très mauvais conseil. Vous pouvez demander à Hélène. On les incite énormément à faire des conneries.
Ah, d'accord.
À chaque fois qu'ils nous posent des questions sur les périodes de plantation ou les techniques, quand on est au courant, on donne quelques réponses, mais généralement, on leur dit bah, « vas-y, essaye ».
Ah voilà, d'accord.
Essaye et tu verras bien, et des fois il y a des surprises.
Mais c'est tout de même une expérience contrôlée ou maîtrisée d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est essaye, mais tu les accompagnes dans cette expérience, David.
Oui, on les accompagne, mais nous on les accompagne pas dans la pratique. On les laisse vraiment faire. Nous, l'objectif, c'est pas d'arriver à une parcelle uniforme qui soit au top de la rentabilité de ce qu'on peut faire sur cette surface-là. C'est l'objectif, au contraire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment chacun s'empare de cette question-là et ce qu'il en fait. Et il y a des personnes qui, par exemple, passent énormément par la cuisine. Je parlais tout à l'heure de la parcelle. C'est lié aussi à souvent des origines et des cultures du jardin différentes. Par exemple, la parcelle réunionnaise oriente beaucoup ces cultures, je pense, par rapport à ce qu'ils ont envie de manger à la fin après la récolte. On a d'autres gens, que ce soit une approche nord-africaine sur lesquelles on va retrouver des techniques d'arrosage complètement différentes, ou on a aussi des influences japonaises dans une partie du jardin. Et alors là, ça passe moins par la question de la cuisine, mais beaucoup plus de la pratique et du geste jardinier. Et tout ça, moi je pense que ce qui fait la richesse de ces différents jardins, c'est leur différence. Et du coup, moi, ça m'intéresse de voir comment est-ce que d'autres personnes gèrent, coordonnent des jardins en partant de cette question de la cuisine et de la nourriture, chose que moi, je ne maîtrise pas. Et c'est bien que ce ne soit pas justement la même approche, c'est que ce soit très différent.
Oui, parce que j'imagine que ça change. La question première, c'est la cuisine, la nourriture. Bah, on cultive d'une autre manière, oui, j'imagine.
Bien sûr. On a eu fait des pommes de terre, on a eu fait des... Quelquefois, on fait de beaux semis. Puis quand on arrive, il n'y a plus rien. Les semis sont saccagés. On a été souvent visités, très très souvent, parce qu'on est en bord de chemin. Et de voir des légumes, ça... Même on a un abricotier maintenant, et bien les enfants arrivent à rentrer, mangent les abricots qui sont verts encore, hein, laissent par terre, on n'en a plus sur l'arbre.
Nous arrivons au terme de cette émission. L'occasion pour moi pour, bien entendu, vous remercier d'être tous et toutes venus parler de ce qu'on cultive à la Belle de Mai, de comment on le cultive et comment on le partage. Merci Eugénie pour l'accueil fait à cette émission ici dans la Fraternité. Et en tout cas, j'espère que ce panier solidaire pourra exister, ce qui serait une belle chose, et que effectivement vous allez continuer à discuter entre David et la Fraternité. Oui, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais juste rajouter, c'est que ce qui peut freiner éventuellement le panier, c'est comment le cuisiner. Le produire, c'est très très bien, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui freine les gens déjà par le manque de temps, parce que ça fait toujours peur d'avoir un légume cru qui peut être inconnu d'ailleurs dans le panier. Bah, énormément de gens, je parlerai juste par rapport aux enfants. Certains, je suis sûr qu'on leur met certains légumes d'antan devant eux, qu'est-ce que c'est? Et même la maman peut-être peut se dire qu'est-ce que c'est? On a un retour aux légumes d'antan. Donc peut-être rajouter quelques fiches recettes dans le panier, peut-être ça pourrait être très très un côté pédagogique de comment on cuisine ce légume, peut-être au plus vite, mais même vite, on peut le faire bon.
Alors justement, par rapport à ça, nous régulièrement, on organise des apéros dégustations où chaque amapien amène une production à partir des légumes de la MAP. On se fait des échanges de dégustation et de recettes. Et même pendant les distributions, c'est toujours un moment d'échange entre les différents amapiens qui sont d'origine très différente. Chacun cuisine selon la recette de son pays d'origine, de sa culture ou de sa famille. Et c'est aussi un moment d'échange.
Et on pourrait imaginer que ces paniers soient cuisinés ici, dans la cuisine de la fraternité, par exemple. Voilà un grand moment où les deux AMAP...
La fraternité, vous direz merci.
Les deux AMAP, la MAP de la Friche Belle de Mai et la MAP Belle de Mai, ces deux AMAP se retrouveraient à la fraternité pour un grand moment de cuisine de tous ces paniers et d'un repas partagé entre tous. C'est un souhait qu'on peut faire à l'issue de cette émission Radio Belle de Mai en direct de la fraternité. Et maintenant, on va aller sous le figuier. Conversation sous un figuier. Bonne continuation, sur les ondes de Radio Belle de Mai. Merci Jean-Baptiste pour la réalisation.